Vous avez bien chanté. J'invite notre pasteur Richard à s'avancer.
Bonjour, frères et sœurs. Nous l'avons chanté ce matin dans plusieurs chants. Et nous avons aussi entendu dans le témoignage de Médel la question d'être sauvé, le salut. Et c'est une question qui peut revenir, surtout dans ce temps de pandémie où on est forcé de s'arrêter dans nos activités, souvent. Ben, on a été forcé de s'arrêter vraiment dans le temps du confinement. Et plusieurs se sont posé la question, qui peut être sauvé? Et la Bible parle d'un endroit qui est en train d'être préparé par le Seigneur, qu'on peut appeler le paradis, le ciel ou la nouvelle terre. Un endroit où certains pourront aller, donc ceux qui sont sauvés, ceux qui bénéficient là, du salut de Dieu, pourront y aller. Les autres ne pourront pas y aller. Donc c'est une très bonne question à se poser. Qui pourra aller au paradis? Qui ira au ciel? Qui peut espérer aller au paradis? Puisque la Bible déclare formellement que Dieu est saint, qu'il est pur, qu'il est parfait et qu'il ne tolère en sa présence aucune impureté. Ça va de soi. Hein? S'il y avait une impureté dans la présence de Dieu, il serait contaminé. Il serait lui-même comme infecté. Mais aucune impureté ne peut être dans sa présence. Mais comme nous avons tous, un jour ou l'autre, fait une action qui déplaît à Dieu, ce que la Bible appelle un péché, bien, normalement, nous sommes tous disqualifiés. Donc, qui pourront bénéficier d'un accès au ciel, au paradis? Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont moins péché que les autres? Dieu va évaluer la quantité de péché que nous avons commis? Ou est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont réussi, avec des bonnes actions, à payer pour les mauvaises actions qu'ils avaient commises? Ou est-ce qu'il s'agit de ceux qui sont nés dans une bonne famille, qui ont grandi dans une famille où il y avait des parents qui les ont bien enseignés? Ou est-ce que Dieu accorde de l'importance plus à une ethnie, à une nation, qu'à une autre? Est-ce qu'il faut être né sur le bon continent, ou dans le bon pays, ou dans la bonne culture, pour espérer être sauvé? Ou est-ce qu'il s'agit finalement du nombre d'années qu'on a marché avec le Seigneur? Est-ce que c'est parce qu'on est un croyant depuis longtemps que là, Dieu va nous admettre dans son paradis? Si c'était l'une de ces conditions-là, on serait tous dans l'incertitude. Comment savoir si on remplit les conditions ou pas? On serait dans une zone grise et honnêtement, personne ne pourrait prétendre être sûr d'aller au paradis. Mais la Bible ne fait pas que soulever la question. Elle donne la réponse aussi. Une réponse claire et nette. Et on la trouve, entre autres, exprimée dans le livre des Actes, qu'on étudie déjà ici en Assemblée depuis plusieurs semaines. Et on arrive au moment où l'Évangile, la bonne nouvelle, est présentée pour la première fois à des gens qui ne sont pas du peuple de Jésus. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Actes 10. C'est dans le Nouveau Testament. C'est facile à trouver sur un téléphone intelligent aussi. Actes, c'est le cinquième livre du Nouveau Testament, après les Évangiles, chapitre 10. Et aujourd'hui, on va couvrir le chapitre 10 en entier, mais on va y aller section par section. C'est un long passage, mais on s'aperçoit que Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, veut nous vraiment nous montrer que c'est un moment très solennel, un moment historique, très important. Et même la semaine prochaine, on va voir dans le chapitre suivant qu'on revient encore sur cet événement-là, qui est d'une très haute importance. Donc, lisons pour commencer les 8 premiers versets. Actes 10, 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier, de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, avait toute sa maison, et il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et il priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui. Et lui disait, « Corneille !» Il fixa les regards sur lui, et saisi de crainte, il lui dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. » Donc, l'histoire concerne premièrement Corneille. On voit un homme ici qui cherche Dieu. Vous serez d'accord avec moi, il est en recherche. Il semble que ça fait plusieurs années même. Il habite à Césarée. Césarée, c'est une ville importante qu'on connaît peu, mais à l'époque, c'est une ville très importante, reconstruite, rebâtie par Hérode le Grand. Il en avait fait finalement la capitale romaine de toute cette province. Donc, c'était le lieu de l'administration de l'Empire romain en territoire de la Judée. Et ça couvrait un grand territoire. L'armée romaine était présente là, en plein territoire des Juifs. Et il y avait un grand port aussi, donc il y avait beaucoup de navigation, des navires de guerre sûrement, mais des navires commerciaux aussi. On dit que c'était un port encore plus grand que le port d'Athènes. Donc, c'était une ville très importante. Mais même si c'était une ville située en pleine Judée, dans le territoire des Juifs, le territoire d'Israël, les Juifs étaient en minorité dans cette ville. Ceux qu'ils appelaient les païens, ce sont finalement vous et moi, tous ceux dans le reste du monde qui ne sont pas juifs, sont appelés des païens ou des gentils, ou parfois appelés les Grecs aussi, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait grec. Mais les païens étaient en plus grand nombre que les Juifs. Donc, il y avait vraiment une rivalité, il n'y avait pas un bon ménage entre la communauté juive et la communauté des païens ou des Grecs. Même les Juifs considéraient que cette ville-là était comme une ville étrangère. Ils l'appelaient la fille d'Édom, ce qui n'était pas un compliment. Et d'ailleurs, le nom Césarée vient du mot César, et ça veut dire ville qui appartient à César. Donc, c'était un affront continuel au peuple juif d'avoir une ville en l'honneur de César. En plus, Hérode le Grand avait fait construire des amphithéâtres, des théâtres selon la culture grecque, un stade pour les courses de chevaux, aussi même un temple pour adorer César. Donc, c'était une ville très religieuse, mais qui était vraiment en contradiction avec la foi en l'Éternel, le Dieu des Juifs. C'est pour ça que la description qui est faite de Corneille est impressionnante. Corneille est centenier, ça veut dire que c'est un chef de légion, de la légion dite italienne. C'était pas n'importe quelle, là. Il y a quelques historiens qui en parlent, de cette légion-là. C'était une légion très importante. Et lui, il était le chef de cette légion-là. C'est comme s'il était l'ambassadeur là, de Rome, là, sur place. Et pourtant, il est pieux. Il croit en Dieu. Il croit en l'Éternel, en Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Et ça doit faire plusieurs années même, parce que toute sa maison s'est convertie et croit en ce même Dieu-là, toute sa famille, ses serviteurs. Et ça fait longtemps qu'il exerce une foi, sa religion en l'Éternel, puisqu'il a même bâti une réputation. On va le voir plus tard, là. Les Juifs disent de lui, oh, « OK, Corneille, lui, c'est une exception. Les païens, c'est toute une gang de bip, 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 mais pas Corneille. » Corneille, c'est une exception. Et il a prouvé sa sincérité parce qu'il donne de l'argent aux pauvres. Il aide même les gens du peuple, et c'est sous-entendu qu'il aide les Juifs. Et il prie régulièrement. Et les Juifs avaient l'habitude de prier 3 fois par jour, au moins. Et il semble que Corneille avait cette même habitude-là. Il était un homme qui cherchait Dieu sincèrement. Mais dans sa prière, qu'est-ce qu'il demandait? Luc ne rapporte pas ce que Corneille demandait, mais c'est sous-entendu. Et on va voir dans la suite du récit. Et finalement, ce que Corneille demande, c'est d'être sauvé. Il croit en ce Dieu-là, et il porte à croire qu'il est allé au synagogue aussi pour entendre la parole. Et il a su que le Dieu des Juifs, est le Créateur, qui a tout pouvoir, que tous les hommes devraient adorer. Et il sait que lui, il a péché. Il sait qu'il est impur. Il sait que finalement que Dieu a toutes les raisons d'être en colère contre lui. Donc, si on pouvait résumer sa prière, il demande à Dieu, « Comment je fais pour être sauvé de ta colère, de ta justice? Comment je peux obtenir ton pardon? » Même ici, il est question de ses prières, mais plus tard, quand on parle de Corneille, on va voir que c'est résumé à sa prière. Vraiment, toute sa prière, c'était le salut pour lui et sa famille. Comment je peux espérer aller au paradis alors que je ne suis même pas un juif, je ne suis même pas dans ton peuple? Et vers 3 heures de l'après-midi, on dit la 9e heure, pour nous c'est 15 heures, ça. Il était justement en train de prier à l'heure où les juifs priaient. Et c'est à ce moment-là qu'un envoyé de l'Éternel, un messager, un ange, lui apparaît, entre dans sa maison et s'adresse directement à lui. Et il est saisi de crainte, même il l'appelle Seigneur, parce qu'il sait que cet ange-là représente Dieu là, qui est venu le voir. Et l'ange lui donne la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qu'il avait dû entendre depuis longtemps. Dieu a entendu tes prières, il s'est souvenu de toi. Il a vu ton cœur que tu as démontré par ta sincérité, par toutes les aumônes que tu as fait, les dons aux pauvres, par tes prières fidèles, et Dieu a vu l'honnêteté de ton cœur, il s'est souvenu de toi. Et maintenant, il veut t'exaucer. Pour cela, envoie des gens de ta maison chercher un homme, Pierre, qui est à Jaffa. Jaffa, c'était pas très loin. Une journée de déplacement. Là. Et va chercher un homme, Pierre, et fais-le venir chez toi. Il a un message pour toi. Et je ne sais pas si c'est parce que Corneille était dans l'armée, il avait l'habitude d'obéir aux ordres, mais il obéit tout de suite au commandement que l'ange lui a transmis. Il appelle ses serviteurs, il appelle aussi un de ses soldats pieux, donc il y avait même dans son armée des soldats qui avaient cru comme lui. Il leur explique même ce qui s'est passé, et eux ne remettent même pas ses paroles en doute. Donc on voit vraiment qu'il y avait, c'était la foi dans cette maison-là. Ils croient vraiment à l'expérience que Corneille a vue, qu'il a vu un ange s'adresser à lui. Ils obéissent et eux aussi, ils partent sans hésiter chercher cet homme-là, Pierre, qu'ils ne connaissaient même pas. Un Pierre annoncé par un ange et eux, ils partent sans hésiter. Mais c'est déjà une bonne caractéristique de quelqu'un qui cherche Dieu. Dieu va se révéler, finalement, il le dit dans la Bible, que Dieu se révèle et accepte de se révéler à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Mais comment on fait pour savoir si quelqu'un est sincère? Bien, la marque, finalement, la ultime, là, à la base, c'est de vouloir obéir à Dieu, de lui faire confiance. Et Corneille, ici, a fait confiance, et son attitude se voit même chez ses serviteurs. Donc, il cherche Dieu, et Dieu se révèle à lui, parce qu'il est prêt à obéir, il est prêt à faire le pas de foi, faire ce que Dieu lui demande. Même si ça peut sembler inutile d'aller chercher un homme, lui, il a besoin d'être sauvé par Dieu, et Dieu lui dit, va chercher un homme qui habite à Jaffa, là. Mais il lui fait confiance, sans poser de questions. Pendant ce temps-là, c'est comme si la caméra change et maintenant on se déplace à Jaffa. Qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Pierre s'est trouvé parce qu'il avait effectué un miracle et il avait accepté de loger chez Simon le corroyeur. Et il avait accepté de rester là un certain temps. Mais on voit que c'est Dieu qui avait tout orchestré cela. C'est le Saint-Esprit qui avait conduit les événements pour que tout se passe selon le timing de Dieu. Lisons à partir du verset 9. 9 jusqu'à 23, le début de 23. Donc, acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut prendre de la nourriture. Et pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase, on pourrait dire comme un rêve éveillé. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et il s'y trouvait toutes sortes d'animaux, tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. » Ou sans juger, finalement, sans remettre en question. « Car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et il dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici? » Ils répondirent, « Le centenier Corneille, un homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Donc on voit ici que pendant que les hommes sont en route pour se rendre chez Pierre, alors que Pierre n'a aucune idée que des gens viennent le chercher, il est en train d'être préparé par Dieu, par le Saint-Esprit, pour cette tâche qu'il doit accomplir. Et il est sur le toit à la sixième heure, c'est-à-dire à midi. Donc lui aussi, il avait l'habitude, même s'il était un juif maintenant converti au christianisme, devenu chrétien. Mais dès le début de l'Église, les chrétiens ont adopté l'habitude de prier à des heures fixes dans la journée. Ce qui n'est pas mauvais, hein? Peut-être qu'on devrait imiter cette bonne habitude. Et pendant qu'il était en train de prier, tout à coup, il a faim. Donc, sûrement qu'il n'avait pas déjeuné. Mais le Saint-Esprit, justement, a coordonné tout cela pour qu'il ait faim juste au moment où il reçoit une vision où il est question de nourriture. Mais il s'agit d'animaux, en fait. Puis, pour comprendre pourquoi Pierre refuse de manger de ces animaux-là dans sa vision, c'est parce que parmi toutes les sortes d'animaux qu'il y avait là, il y avait des animaux jugés, déclarés impurs dans la loi de l'Ancien Testament. Quand on lit le livre de Lévitique, en particulier au chapitre 11, on voit une liste d'animaux que Dieu ordonne à son peuple, au peuple d'Israël, vous pourrez manger de tel animal, mais cet animal-là, vous allez le considérer comme impur, vous n'en mangerez pas. Par exemple, le porc, il ne mangeait pas de cochon, parce que c'était interdit dans la loi. Mais là, tout à coup, la voix qui vient du ciel, donc c'est Dieu lui-même qui lui dit, « Tue et mange. » Pierre dit, « Non, Seigneur. » On reconnaît Pierre. Hein? Si vous avez lu les évangiles, c'est déjà arrivé que Pierre ose dire « Non, Seigneur » à Jésus, qui est en personne devant lui. Mais c'est son caractère qui ressort. Là. Il est encore un être humain, avec sa vieille nature qui ressort. Mais on comprend qu'il n'avait pas raison, en fait. Si Dieu lui dit « Tu peux manger », c'est parce qu'il peut manger. Et trois fois, dans sa vision, il se fait dire « Mange » et il refuse. « Non, non, je vais me souiller. » Plus tard, il réfléchit à la question. Dieu a déclaré pur ces aliments-là. Et en fait, il aurait dû même se souvenir des paroles de Jésus. Même on lit dans Marc, lorsque Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui nous souille, c'est notre propre corps, notre propre cœur qui nous souille, finalement. » Et Marc ajoute la petite phrase qui dit « Il est en train de déclarer tout aliment pur. » Même probablement que l'évangile de Marc a été rédigé sous la mémoire de Pierre lui-même. Mais bon, à ce moment-là, il semble qu'il ne s'en souvenait pas, mais il était justement en train de réfléchir à cela. Quel sens que ça a, cette vision-là? Bien, littéralement, c'est vrai que Dieu, à ce moment de l'histoire, a dit « C'est terminé d'avoir une liste d'aliments purs, une liste d'aliments impurs. Maintenant, vous allez manger de tout. » C'était une barrière qui tombait, une différence entre le peuple juif et le reste du monde. Et on sait que les Juifs étaient appelés à amener cette bonne nouvelle de Jésus chez les païens, chez les autres nations. Mais comment aller manger chez un païen s'ils offrent des choses qu'eux ne peuvent pas manger? Mais on voit que cette vision-là touche à un point encore plus crucial que cela, c'est que les païens eux-mêmes étaient considérés comme impurs, comme souillés. Même dans l'Ancien Testament, un Juif ne pouvait pas épouser une non-juive. Il n'était pas non plus normal pour des Juifs de se lier d'amitié avec des étrangers. À moins que les étrangers viennent sur leur territoire, ils pouvaient les aider. Mais il y avait quand même une distinction à faire entre le peuple de Dieu, l'Israël, et le reste des autres nations qui devaient être considérés comme des gens païens qui adorent de faux dieux, qui sont dans le péché, qui ont besoin de se convertir. Mais on voit, et on va le voir dans la suite du récit, que ce songe-là, cette vision que Pierre a eue, touche un point crucial. Dieu est en train de dire... Il n'y a plus de personnes qui sont, par nature, impures, autres que vous. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement les Juifs qui peuvent accéder au privilège d'être membres du peuple de Dieu, mais c'est maintenant ouvert à tous. Vous n'allez plus considérer les hommes comme des causes perdues, des gens souillés, comme nés dans le péché, comme on lit dans Galates. Et c'est justement au moment où Pierre réfléchit à cette vision-là, qu'il est en train de méditer, que trois étrangers arrivent, et ces trois païens, envoyés par un Romain, qui l'appelle. Donc, il est tout de suite confronté dans ses valeurs, dans ses principes. Est-ce que je vais les écouter et les recevoir? Et on voit encore le timing de Dieu. Et le Saint-Esprit lui fait comprendre à Pierre, « Descends, va voir ces hommes-là, c'est moi qui les ai envoyés. Ils viennent te chercher pour que tu apportes un message. Et tu dois les recevoir et même partir avec eux. » Et Pierre obéit. Encore une fois, on voit dans ce passage le thème de l'obéissance à Dieu qui est nécessaire. Être pieux, religieux, craindre Dieu, ça veut dire de lui obéir, sans remettre en question les ordres de Dieu. On voit l'importance d'obéir à Dieu, autant pour celui qui cherche Dieu, que pour celui qui le connaît déjà, mais qui veut être à son service. L'importance demeure d'obéir à Dieu. Non, les hommes informent Pierre de la raison de leur visite. Ils parlent en bien de leur maître, Corneille. Ils le décrivent comme un homme qui craint Dieu et qui l'a démontré. Donc, Pierre, son cœur est en train d'être préparé là, à se rendre chez Corneille. Et qu'il a même reçu la visite d'un ange envoyé de Dieu. On arrive maintenant à la dernière partie où Pierre accepte de partir avec les hommes et se rendre à Césarée, dans cette ville païenne, chez un chef romain. À partir du verset 23. Donc, Pierre les fit entrer et il les logea. Le lendemain, Il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée, et Corneille les attendait. Et il avait appelé chez lui ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer même chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Et je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, « Mais il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi. Et il dit, « Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon, son nommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Alors Pierre ouvrit la bouche, et il dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Il n'y a pas de discrimination. En toute nation, celui qui craint et pratique la justice lui est agréable. » Et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Et c'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché et comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Mais ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Wow, c'est tout un passage, hein? C'est un moment historique et on comprend pourquoi Luc a pris la peine de le détailler à tout ce qui s'est passé là. Donc Pierre, on voit, il suit les hommes jusque chez Corneille et il a avec lui des Juifs chrétiens qui sont appelés des frères ou des saints. Donc il n'est pas seul. Il y a des gens de l'Église qui étaient constitués à ce moment-là seulement de Juifs convertis qui accompagnent Pierre. Ils sont prêts à l'accompagner jusqu'à la maison remplie de païens. Mais Corneille est prêt. Il l'attend et il a invité ses amis, ses parents. Donc la maison devait être pleine. Il avait vraiment hâte là, d'entendre le message venu de Dieu. Et il le considère, il considère Pierre, lorsqu'il le voit arriver, vraiment comme un envoyé de Dieu. Oui, c'est comme un deuxième ange qui vient le voir. Et il accourt, il va se prosterner à ses pieds. On comprend sa réaction, mais Pierre le corrige. « Non, relève-toi, je suis seulement un homme comme toi. » On voit déjà que la réflexion de Pierre a fait du chemin. Là. Il ne se considère pas supérieur à ce païen. Il est un homme comme lui, qui a besoin d'être sauvé, comme tous les hommes. Et en entrant, Pierre aborde tout de suite la question qui est délicate. C'est comme s'il y a un éléphant là, dans la pièce. Et il le dit, là, « Vous savez, moi, en tant que juif, je ne suis pas autorisé normalement à me lier d'amitié avec des étrangers, des païens. et même pas d'entrer chez eux. Mais Dieu m'a montré aujourd'hui là, que je ne dois pas considérer aucun homme sur la terre comme étant souillé ou impur, indigne d'entendre la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Donc Pierre leur demande, « Pourquoi vous m'avez fait venir? » Et Pierre lui raconte la visite de l'ange. Il lui raconte qu'il avait prié depuis longtemps et que Dieu avait voulu exaucer sa prière en faisant venir Pierre pour que Pierre lui transmette le message que Dieu lui a ordonné de transmettre. Quel est ce message-là? Et on l'a vu depuis le début du livre des Actes. Le message que Pierre répandait, transmettait partout, le message qu'il prêchait, c'était le besoin de se repentir en mettant sa foi en Jésus pour être sauvé. C'est l'Évangile. Donc Corneille ne savait pas c'était quoi le message, mais c'était clair que Pierre se faisait ordonner par Dieu même d'annoncer l'Évangile à des païens. C'est pour ça que normalement Pierre aurait dit non Seigneur, mais là je pense qu'il avait abdiqué, là. Il a compris. Donc il présente cet Évangile-là. Il ouvre la bouche même, c'est l'expression que Luc utilise. Et d'ailleurs, c'est le devoir de tous les chrétiens, hein, d'ouvrir la bouche. Et Pierre commence par déclarer ce qu'il a compris. Dieu ne fait pas de distinction, ne fait pas de discrimination, de considération de personne. Le message de l'Évangile est adressé à tous les hommes. Et il continue en rappelant le ministère de Jésus, que même les gens de Césarée avaient connu. Parce que le ministère de Jésus a été connu sur tout le territoire de la Judée, de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Ils leur disent, le ministère de Jésus, c'était quelques années auparavant, a commencé sur le bord du Jourdain lorsqu'il s'est fait baptiser lui-même par Jean-Baptiste pour donner l'exemple et pour s'identifier à nous. Il est vraiment l'un des nôtres qui a été baptisé. Et ensuite, il s'est promené de ville en village et partout où il allait, il annonçait cette bonne nouvelle-là. Il faisait du bien, il guérissait, il faisait des miracles, ce qui démontrait la puissance du Saint-Esprit sur lui, la puissance de Dieu. Et partout où il allait, il chassait Satan, il chassait le diable. Littéralement, les démons étaient chassés parce que le royaume de Dieu avançait et Jésus était son représentant. Mais malheureusement, il a été rejeté par son propre peuple qui l'ont mis à mort, cloué sur une croix, pendu au bois, comme Pierre raconte ici. Ça, c'est ce que tout le peuple a su. Mais ensuite, il s'est passé un autre événement extraordinaire qu'un petit groupe a su. Un groupe de témoins que Dieu a désigné d'avance, donc les 12 apôtres, et aussi les disciples qui étaient avec eux. Donc, quelques centaines, mais comparé à toute la population, c'est peu. Donc, un petit groupe privilégié de témoins qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont mangé avec lui, qui ont touché, qui lui ont parlé, qui ont bu avec lui. Ils l'ont vu même encore faire des miracles après sa résurrection, qui ont encore reçu son enseignement, qui l'ont vu monter au ciel de leurs propres yeux. Et Dieu a ordonné à tous ces témoins-là d'aller répandre la bonne nouvelle. Donc d'être les messagers pour annoncer le fait que Jésus est mort pour nos péchés, que Dieu l'a envoyé sur terre mourir pour nous. Comme on l'a entendu tantôt dans le témoignage de Médel, dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, tous les hommes sans distinction, qui a envoyé son propre fils, son fils unique, sur terre, mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas en enfer, mais soit sauvé et finalement accède au paradis. Et Pierre déclare que Jésus, après avoir été élevé, il a été élevé même au rang le plus élevé à la droite de Dieu. Il a été nommé juge des vivants et des morts. Ça inclut pas mal tout le monde, ça, les vivants et les morts. Il n'y a pas de position plus élevée. Même on lit dans le Nouveau Testament que Dieu, même le Père, appelle son Fils qu'il a élevé au rang de juge. Il l'appelle Dieu. Il nous demande même de considérer Jésus comme Dieu. Et lorsque des gens se prosternaient devant Jésus, Jésus ne les a jamais repris en disant « Je ne suis qu'un simple homme ». Il est digne d'adoration, puisqu'il est Dieu et seul Dieu est digne d'adoration. Et tous les vrais prophètes, finalement, c'est ce que Pierre dit, tous les vrais prophètes sont d'accord. Ils disent la même chose à propos de Jésus. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés et est sauvé et va au paradis. Donc, les seuls, finalement, qui peuvent dire avec certitude, je sais que je suis sauvé, je sais que ma place est au paradis, c'est ceux qui croient en Jésus, qui ont reçu en son nom le pardon de leurs péchés. Ils sont purs. C'est ce que Médel a témoigné ce matin. Elle a été purifiée, elle est une sainte. Et elle peut être dans la sainte présence de Dieu. puisque Jésus a payé pour ses péchés, il a lavé. Et puisque Jésus est vivant, un jour, même après sa mort, il va lui redonner la vie. Un jour, tous ceux qui ont cru en lui vont avoir un nouveau corps et pourront vivre pour l'éternité avec Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus est mort. Lorsque son propre peuple l'a rejeté, en fait, ça faisait partie du plan de Dieu. Il devait mourir pour payer à notre place les péchés de tous ceux qui croient en lui. Et c'est ce que Pierre dit à ceux qui sont assemblés dans la maison de Corneille, afin que quiconque croit reçoive le pardon des péchés dans le nom de Jésus. Et le mot « quiconque » n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Ils ont dit « wow, quiconque, ça veut dire nous aussi ». Et ils ont cru. Et la preuve de cela, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur eux d'une manière qui s'est manifestée très semblable au jour de la Pentecôte, où les premiers chrétiens juifs se sont convertis, ont été sauvés, le Saint-Esprit est venu sur eux. C'était le début de l'Église, seulement chez les Juifs. Maintenant, le même événement où les gens parlaient dans toutes sortes de langues qui leur étaient inconnues, le même miracle s'est produit maintenant chez des païens, des Romains. Vraiment, Pierre a dit « wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Et il a reconnu, si le Saint-Esprit descend sur eux, le même Saint-Esprit qui est venu sur nous, est-ce qu'on peut leur refuser le droit d'être baptisé? Bien sûr que non. Et la Bible enseigne que le baptême, finalement, c'est l'entrée dans l'Église. Donc, Pierre avait compris que ces païens qui croyaient en Jésus, convertis, repentants, entraient dans le même peuple de Dieu que lui. Donc, ce jour-là, non seulement la barrière de la nourriture était tombée, mais le mur de séparation entre les Juifs et les païens était tombé. C'était la chute du mur là, de la séparation entre Juifs et Grecs, Juifs et autres nations. Maintenant, Dieu incluait dans son peuple, à partir de ce jour-là, tous ceux qui croyaient en Jésus. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et ils ont été baptisés, et Pierre est resté encore quelques jours avec eux pour les fortifier, en faire des disciples, finalement. C'est ce qu'on lit dans Matthieu, dans Matthieu 16, alors que Jésus se trouvait justement sur le territoire de Césarée. Il était tout proche de Césarée. Et Jésus s'adresse à Pierre. En fait, il commence par s'adresser à tous ses apôtres et il pose la question. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, comme revenu des morts, parce que Jean-Baptiste avait été décapité. D'autres disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cette fondation, je bâtirai mon Église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc l'Église continue même après la mort pour l'éternité. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Certains ont compris que Pierre se tient maintenant à la grille de la porte d'entrée du ciel pour nous laisser entrer ou non, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est que Jésus a annoncé à Pierre qu'il allait l'utiliser comme son instrument pour ouvrir les portes du royaume. Et la première fois que c'est arrivé, c'est le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre a prêché, les Juifs se sont convertis. Le royaume, finalement, a été ouvert à 3000 personnes qui se sont converties. Plus tard, on a vu que Pierre a comme utilisé les clés pour ouvrir le royaume aux Samaritains, qui étaient considérés comme des Juifs de seconde classe, de classe économique. Et là, encore une fois, Pierre est utilisé comme un instrument dans les mains de Dieu pour ouvrir les portes du royaume à toutes les nations, à tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Donc, c'était un moment historique. Donc, il ne faudrait pas penser que ce qui s'est passé ce jour-là, des gens se sont mis à parler dans des langues, qu'il y a eu une manifestation du Saint-Esprit, que ça doit se passer aujourd'hui. C'était un événement ponctuel, spécial, historique, qui s'était passé au jour de la Pentecôte, qui se passe là, qui va se passer plus tard à la conversion des disciples de Jean-Baptiste. Mais après, on n'entend plus parler de ce genre d'événement. Tout se passe aujourd'hui basé sur la foi que nous avons dans ces récits. Dieu nous demande de croire, de porter foi aux récits que nous lisons entre autres dans le livre des Actes. Donc, si on repose la question, qui peut aller au paradis? Qui peut prétendre aller au ciel dans la présence sainte de Dieu? Bien, on se rend compte que même un homme pieux, bon, qui craignait Dieu, qui faisait des aumônes pour les pauvres, qui était fidèle dans les prières, qui avait bonne réputation, Même un homme comme Corneille, que tous disaient qu'il était un homme de bien, même ses ennemis, même les Juifs, mais même un homme comme cela avait besoin d'être sauvé. Donc finalement, personne ne peut prétendre qu'il mérite sa place au ciel. Personne ne mérite une place au ciel. Tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Qu'ils aient commis des actes désagréables à Dieu ou des actes agréables à Dieu. Peu importe, tous ont besoin d'être sauvés. Mais ce pardon-là est offert à tous. C'est ça la beauté de l'Évangile. Tous peuvent répondre à cette invitation-là. Il est offert à n'importe qui. Donc, gardons-nous des préjugés. Aujourd'hui, on croirait qu'un homme religieux et pieux comme Corneille est presque sauvé automatiquement. Mais c'est une erreur. À l'époque, pour beaucoup de Juifs, un homme comme Corneille, qui était un païen, lui était considéré comme une cause perdue. Il ne peut pas être sauvé, il n'est même pas dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce genre de préjugés-là pourrait se trouver chez nous, par exemple, si on considère une personne qui a grandi dans une famille athée, où on considère, je ne sais pas, parfois c'est inconscient, mais on considère qu'une certaine ethnie, une certaine nation, une certaine culture sont complètement loin de Dieu, ils sont des causes perdues, ils ne pourront pas être sauvés. Mais c'est une grave erreur. L'Évangile est offert vraiment à tous, gardons-nous de tout préjugé. Ou si on croit qu'un homme ne peut pas être sauvé, on est dans l'erreur. Ou si on croit qu'un homme est automatiquement sauvé parce qu'il le mérite, on est dans l'erreur aussi. Finalement, tous, peu importe la situation où ils se trouvent, peu importe l'âge, peu importe notre historique, notre vécu, tous doivent passer par ce même et seul chemin qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, le salut, l'accès au paradis est gratuit, mais pour en bénéficier, il faut faire ce pas de foi-là, cette obéissance. Et c'est tout simple ce que Dieu demande. Dieu demande à tous les hommes, croyez-moi sur parole, ayez foi en moi, faites-moi confiance, je vous dis, que vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour vos péchés, ressuscité et qu'il peut vous donner la vie éternelle. Croyez à cela, c'est ce que Dieu nous demande. Et il nous demande de ne pas remettre en question le processus qu'il a établi, le moyen d'être sauvé. C'est le moyen que Dieu a décidé dans sa sagesse. Il veut qu'on mette notre foi en Jésus et il n'y a aucun autre moyen. Donc, pour être sauvé, il faut vraiment mettre notre confiance dans Dieu, le Créateur qui a créé l'univers et qui tient l'univers dans sa main, qui nous dit, pour accéder au paradis, pour avoir la vie éternelle, croyez en Jésus. Tout passe par là. Donc, croyez en Jésus. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez même donner votre vie au Seigneur maintenant. Croyez qu'il est mort pour vos péchés. Donnez-lui votre vie, vous serez pardonné de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit en vous, qui va même vous donner l'assurance que vous êtes sauvé, que vous êtes un enfant de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais ce pas de foi-là, ce pas d'obéissance, ce n'est pas seulement pour la conversion. Ensuite, on entre dans une vie où on devient des disciples de Jésus, où à tous les jours, on doit faire un pas de foi, croire Dieu sur parole et lui obéir. Comme Pierre a obéi à Dieu ce jour-là et a pu être son serviteur, un serviteur utile dans les mains de Dieu. Et si on veut vraiment servir Dieu, sincèrement, on doit obéir. Il ne faut pas se faire à croire qu'on peut vivre en contradiction avec la volonté de Dieu et pouvoir le servir. Ça demande un pas de foi, un pas d'obéissance, de mettre notre confiance dans ce que Dieu nous dit. Et une chose très simple qu'il nous demande de faire, mais qui n'est pas toujours facile, c'est d'ouvrir notre bouche. Comme Pierre, en tant que chrétien, Dieu va nous conduire vers des âmes qui cherchent Dieu. Et Dieu ne va pas envoyer ses anges pour les convertir. Cette tâche-là est confiée aux êtres humains, aux chrétiens. Donc, c'est un privilège immense que nous avons, mais c'est aussi un devoir d'ouvrir notre bouche comme celle de Pierre. Amen.